J'ai essayé hier de vous montrer comment l'acte ne pouvait pas se réduire à la forme, la découverte inductive de l'être en acte et de l'être en puissance nous permet de comprendre que nous avons là une découverte d'un principe ultime qui dépasse toutes les déterminations et qui est quelque chose d'au-delà de ce que représente l'ousia qui est source de toutes les déterminations. Voyez, alors ici je mets simplement pour que vous puissiez bien saisir. Il est bien évident que constamment vous trouvez dans la pensée de saint Thomas que la forme est acte de la matière. Vous voyez, ça peut très bien se dire, la forme détermine la matière. Et en tant qu'elle détermine la matière, elle l'actue. Donc la forme pourra jouer par rapport à la matière le rôle d'acte. Ce qui n'implique pas de dire que l'acte soit forme. Oui, c'est toujours la même chose. Nous avions vu ce problème à propos de l'âme et de l'ousia et de la substance. L'âme est substance. Mais je ne peux pas dire que la substance soit l'âme. Il faut bien comprendre cette diversité d'affirmation. Ce n'est pas la même chose, vous voyez, d'affirmer que l'âme est bien substance. Mais ça ne veut pas dire que la substance soit l'âme. Quand je dis que l'âme est substance, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que l'âme, par rapport au corps, joue le rôle de la substance. C'est-à-dire qu'elle est telle substance. L'âme est telle substance. Le pos, la manière d'exister. L'âme joue par rapport au corps le rôle d'une substance, c'est bien évident. Mais cela ne veut pas dire que lorsque je cherche ce qu'est l'âme, ou plus exactement, lorsque je cherche ce qu'est la substance, je dis que la substance est l'âme. Pourquoi ? Parce que l'âme est principe de vie, alors que la substance est principe selon la forme de ce qui est. Je suis donc à deux niveaux différents, le niveau de l'être et le niveau de la vie, du vivant. Il faut arriver à discerner la différence entre la recherche de ce qui est vu du point de vue de l'être et le point de vue du vivant, regardé comme vivant. On n'est pas au même niveau. Eh bien, il y a quelque chose d'analogue ici, vous voyez. Lorsque je dis que l'acte, quand je cherche qu'est-ce que c'est que l'acte, quand j'ai découvert l'être en acte et que je réfléchis pour savoir ce que représente l'acte au-delà de la puissance, je dis l'acte ne peut pas être la forme. Il est au-delà de toute détermination. Il est au-delà de toute intelligibilité quiditative. C'est-à-dire de toute intelligibilité que je peux posséder pleinement et totalement. L'acte est au-delà. Bien que la forme joue par rapport à la matière un rôle analogue à l'acte. Elle actue la matière. Mais l'acte n'est pas la forme. Ça peut sembler subtil. Et c'est pourtant très important au point de vue de ce que représente notre précision au point de vue connaissance. D'autre part, pour qu'il n'y ait pas de confusion, comprenez bien que l'acte possède une intelligibilité suprême, puisque c'est ce qu'il y a d'ultime dans l'ordre de l'être.
L'être n'était ce qui est, pour bien rester dans le concret. Ce qui est a comme propriété d'être intelligible, c'est-à-dire d'être capable d'être connu par mon intelligence. Mon intelligence est faite pour connaître ce qui est. Et elle essaie d'atteindre ce qui est de diverses manières. La propriété de ce qui est, c'est d'être intelligible, c'est-à-dire d'être capable de déterminer l'intelligence. C'est comme ça qu'on peut déterminer ce que c'est que d'être intelligible, ce qui est capable de spécifier, de déterminer l'intelligence. Normalement, qu'est-ce qui détermine l'intelligence? Qu'est-ce qui spécifie l'intelligence? C'est justement le fait que dans ce qui est, il y a une ousia, il y a une substance, il y a des qualités, il y a diverses formes, et ainsi de suite. C'est cela qui spécifie en premier lieu l'intelligence. Mais comme la forme est, comme la forme n'est qu'un élément de ce qui est, elle est un principe de ce qui est, elle n'est pas adéquate à ce qui est, il y a une intelligibilité de la réalité qui est au-delà de la forme. Et c'est cette intelligibilité qui est propre à l'acte. Donc l'acte est bien intelligible, mais il n'est pas intelligible à la manière de l'acuité. Mais comme toujours, il faut essayer de comprendre. Il ne faut pas dire du tout que l'acte est irrationnel. Il est irrationnel en ce sens qu'il est au-delà du rationnel. Mais il n'est pas inintelligible. Il est au contraire ce qui supporte, ce qui est la source dernière de toute intelligibilité. Toute intelligibilité provient de l'acte. Toute intelligibilité s'enracine dans l'acte. Et donc c'est bien ce qui est super intelligible, éminemment intelligible, mais qui n'est pas d'une intelligibilité quiditative. Oui, nos pauvres mots, hein, c'est, il faut bien voir, on tourne en rond. Faut être conscient de cela pour essayer de regarder ce qu'il y a d'ultime dans ce qui est vu du point de vue de l'être. Ce qu'il y a d'ultime, c'est l'acte. Précisons encore ce que j'avais commencé hier à dire. L'acte ne peut pas se ramener à l'exercice. C'est toute la question du dépassement de l'acte par rapport à l'exercice. Ce qui est au fond très important et difficile à saisir. Là aussi, c'est difficile à saisir ces choses-là. L'acte est au-delà de l'exercice. L'exercice, c'est ce qui provient directement de la cause efficiente. La cause efficiente est source d'exercice. L'exercice, pour moi, est toujours donné dans un devenir. Pour moi, c'est-à-dire dans les réalités que j'expérimente. C'est toujours devenu dans un devenir. Tout exercice, toute efficience, mettez efficience, toute efficience est donnée dans un devenir, dans un certain exercice. Ceci regarde le point de vue de la cause efficiente. Quand j'agis sur quelqu'un, je sais très bien ce que ça représente. Il y a le fait que l'autre pâtit. Il y a une certaine énergie qui passe de la cause efficiente sur le patient. Et le fluxus du devenir, c'est un exercice. Eh bien, l'acte est au-delà de cela. L'acte ne peut pas se ramener à l'exercice. Il est plus que cela. Alors, je peux essayer de le saisir de cette manière, que la cause efficiente est elle-même actué par la cause finale. Donc, au-delà de la cause efficiente, il y a la cause finale. Mais si je prends ce raisonnement-là, vous comprenez, il y a une petite pétition de principe. Parce que, pourquoi puis-je dire que la cause efficiente est actuée par la cause finale? C'est parce que, justement, l'acte ne se ramène pas à l'exercice. Donc, il ne s'agit pas de faire une pétition de principe. Je fais exprès la pétition de principe pour que vous voyez mieux. Parce que quelquefois, la pétition de principe, c'est très éclairant. C'est très éclairant parce qu'on la fait instinctivement. On la fait tout le temps comme ça. C'est tellement difficile de raisonner sur ces pointes ultimes de l'intelligence. Vous comprenez? Petite pointe d'aiguille. Hein? Alors, comme on est très myope,
On voit très difficilement. Quand vous la fixez trop longtemps, vous la voyez double. Alors, vous ne voyez plus du tout. Et alors, vous commencez à voir l'acte de manière différente. Vous ne voyez plus du tout. Et c'est vrai que c'est très difficile pour notre intelligence de saisir ce moment qui est l'acte, qui n'est pas, donc, qui n'est pas l'exercice. Donc, il faut comprendre qu'il faut comparer l'acte à l'exercice, à l'efficience, et comprendre que l'acte est au-delà de l'efficience et au-delà de l'exercice, ce qui me permet de poser immédiatement après que la causalité efficiente qui regarde l'exercice et l'efficience, de fait, est dominée par la cause finale. Vous voyez, cette affirmation d'Aristote et que saint Thomas a repris, la cause finale est cause des causes. C'est du reste très beau, la cause finale est cause des causes. Elle est donc cause de la cause. Qu'est-ce que ça veut dire que la cause efficiente, que la cause finale est cause des causes? Ça veut dire que tout exercice de la cause finale, de la cause efficiente, dépend d'une fin. C'est la fin qui attire la cause efficiente. Alors, je dis attire parce que je n'ai pas d'autre mot. Très difficile. Cherchez. Si vous trouvez un autre mot, vous me le direz. Je n'en vois pas, moi. Je n'en vois pas d'autre mot que de dire que la fin attire. En réalité, c'est le bien qui attire. Alors, c'est tout à fait juste de dire que le bien attire. Quand je dis l'acte attire, vous voyez, je me sers du bien pour éclairer l'acte. Ce qui n'est pas non plus tout à fait juste. Puisque, en réalité, c'est l'acte qui fait comprendre métaphysiquement ce que c'est que le bien. Il faudrait donc trouver ce qui est propre à la causalité finale. Qu'est-ce qui est propre à la causalité finale, comparativement à la causalité efficiente? Négativement, c'est très facile à dire. La causalité efficiente, c'est la chicno. Il faut le contact. On pousse quelqu'un. Ça, on comprend très bien. La causalité efficiente, on a l'expérience constante. On agit sur quelqu'un. Alors, on le voit réagir, n'est-ce pas? Tandis, on agit, on pousse quelqu'un. La cause efficiente implique le contact. La cause finale est au-delà du contact. Et elle reste pas seulement intentionnelle, elle est réelle. C'est ça la difficulté. Parce que très facilement, je dirais, elle est purement intentionnelle. Vous voyez, c'est, au point de vue dans l'ordre moral, elle est intentionnelle, c'est très vrai. Elle est intentionnelle, c'est la fin qui produit en moi l'intention. Donc elle est intentionnelle. L'intention, c'est la fin qui produit en moi l'intention. Mais l'intention est le fruit de la cause finale. Et donc la cause finale est source de cette intention. Et donc elle n'est pas intentionnelle. Ça a été l'erreur qu'on a faite en disant que la causalité finale étant intentionnelle est métaphorique comparativement à la causalité efficiente. Parce que la causalité efficiente, elle est elle à directement source de l'efficience. Et donc, on voit le résultat. Je vois le résultat de la cause efficiente. Le résultat de la cause efficiente, c'est une œuvre. C'est une œuvre. C'est quelque chose que je peux palper, que je peux voir. Tandis que le résultat de la cause finale, je ne le vois pas. Le résultat de la cause finale, où est-ce qu'il est? Cherchez bien. Je le vois sur la cause efficiente. Puisqu'il actue la cause efficiente. Et donc, par la cause efficiente, je le vois dans l'œuvre. Mais découvrez dans l'œuvre l'influence de la cause finale. Ça devient très, très difficile. Très, très difficile. De découvrir dans l'œuvre la marque de la cause finale. Alors, quelle est l'effet propre de la cause finale? S'il y a cause, il y a un effet. Il faut bien. Je ne dis pas une œuvre, mais un effet. Et je dis que l'effet propre de la cause finale, au point de vue moral, c'est de réaliser en moi une intention. L'intention, c'est un amour ordonné vers une fin. C'est ce que produit le point de vue de la fin. Quand je suis finalisé, j'ai une intention de vie. Si je ne suis pas finalisé, je n'ai pas intention de vie. On dira psychologiquement, on n'est pas motivé. C'est très très bien, je veux bien. Psychologiquement, c'est normal qu'on dise ça. Philosophiquement, il faut aller plus loin. Parce que motivé, c'est justement ce qui est immédiat dans mon conditionnement. Il y a quelque chose de plus. Je peux très bien dire que si je suis, si la cause finale agit sur moi, si je suis finalisé, il y a une intention dans ma vie. Et la fin repose sur le bien. Et la fin présuppose un amour. Alors je pourrais dire que l'effet propre du bien, c'est de réaliser en moi un amour. L'amour, ça ne se voit pas. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas vrai. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. C'est à la source de l'intention. C'est à la source de toute réalisation. Je ne réalise qu'à cause d'un amour. Et donc l'amour est quelque chose de très caché, de très premier, qui est le fruit premier du bien. Cause finale. L'amour dans mon esprit. L'amour dans ma volonté. C'est quelque chose de tout à fait premier, qui pratiquement existe avant l'efficience, ordonne l'efficience, motive l'efficience, et quelque chose d'antérieur. Donc je peux dire que la cause finale, c'est vraiment au plan de ma volonté, au plan de ma propre expérience, de ma vie humaine. Je peux dire que la fin, c'est ce qui permet en moi d'orienter mon amour. Et que cette fin présuppose un bien spirituel qui suscite en moi un amour. Cet amour est vécu intentionnellement, c'est bien évident. Mais ça ne veut pas dire que le bien soit intentionnel, il est réel. Et ça ne veut pas dire que la cause finale est intentionnelle, elle est réelle. Et elle se réalise en moi de cette manière, et donc d'une manière tout à fait cachée. C'est un effet caché, c'est très vrai. Et c'est parce que c'est un effet caché que dès qu'il y a un tout petit peu de positivisme en moi, je ne vois plus. Le seul effet que je vois présuppose toujours une cause efficiente. La réalisation, c'est toujours la cause efficiente. La réalisation d'une œuvre. La réalisation de l'effet au sens plénier. Mais avant la réalisation de cette œuvre, il y a en moi un amour, il y a en moi une intention. Et c'est pour ça que la cause finale détermine l'efficience. C'est important de se rappeler ça. Nous y reviendrons, hein? Mais je le dis tout de suite ici, parce que c'est intéressant pour ce que nous voyons. Mais vous voyez que pour pouvoir dire ça, il faut comprendre que l'acte est antérieur à l'efficience. Que l'acte ne peut pas se ramener à l'efficience. Que l'acte ne peut pas se ramener à ce que représente l'exercice. Que l'acte est quelque chose de plus. Alors, comment le comprendre? C'est que, de fait, l'exercice implique toujours un certain passage. L'efficience implique toujours un certain passage de la puissance à l'acte. Autrement, il n'y aurait pas d'efficience. Il n'y aurait pas de fluxus, il n'y aurait pas d'exercice. Or, l'acte, c'est justement ce qui est au-delà de la puissance. Donc, l'acte est antérieur à ce que représentent l'exercice et l'efficience. L'acte est source de l'efficience, mais il n'est pas l'efficience. Et ceci me permet de dire immédiatement que la causalité efficiente est dépendante de la causalité finale qui, elle, est directement reliée à l'acte. Je ne veux pas insister plus. Hein. Je vous montre là quelque chose qui est très, très délicat, mais important à saisir. On le verra de mieux en mieux. Mais je crois qu'il faut le saisir tout de suite, que l'acte ne peut pas se ramener à l'efficience. D'autre part, il faut bien comprendre que l'acte est directement relié à l'être. Parce que ce serait une tendance de dire que l'acte ne peut être saisi que par l'esprit. C'est toujours la grande tendance de l'idéalisme. C'est de mettre l'esprit au-delà de l'être. Vous savez bien. C'est l'esprit qui mesure l'être et non pas l'esprit qui est mesuré par l'être. Si l'esprit mesure l'être, vous comprenez bien que l'acte, ce qu'il y a d'ultime dans l'être, sera donc lui-même mesuré par l'esprit. L'esprit, c'est l'intelligence et la volonté. Et alors, à ce moment-là, vous ne verrez plus l'acte que entelekeia, l'opération propre de l'intelligence. L'opération propre de l'intelligence qui nous montre cette vitalité ultime qui est la vitalité de l'intelligence. Et vous montrerez que le jugement, dans sa vitalité, est supérieur à l'être. C'est très important de saisir ça. Alors, comment échapper à cela? Ce qui n'est pas commode. Hein? Comment échapper à cela? C'est de comprendre que, de fait, la réalité qui est, dans laquelle l'acte est impliqué, qui est saisie par le jugement d'existence, fait que mon intelligence, à ce moment-là, découvre l'autre que je ne peux pas assimiler pleinement. L'autre que je touche et que je ne peux que toucher. Je ne peux pas assimiler l'intelligibilité de l'acte. Mais l'intelligibilité de l'acte me dépasse. Et donc, l'acte comme tel est mesure. Et donc antérieur à l'esprit. C'est très vrai que c'est l'esprit, mon intelligence, qui manifeste ce qu'est l'acte. Et l'acte est manifesté et découvert par l'intelligence. Seule l'intelligence peut toucher ce qu'il y a d'ultime dans l'être, l'acte. Mais mon intelligence touchant ce qu'il y a d'ultime dans l'être, le manifeste en le connaissant et en le touchant. Mais mon intelligence est ordonnée à cela. Donc je ne peux pas ramener l'acte à l'esprit. Si je ramène l'acte à l'esprit, je ne vois plus que le côté d'immanence de l'acte et je ne vois plus l'aspect de dépassement de l'acte qui est mesure par rapport à mon intelligence. Et alors là, c'est surtout critique, hein. Et c'est en critique qu'on doit surtout voir cela. On doit donc essayer de comprendre comment l'acte est ce qu'il y a d'ultime par rapport à l'être. Et donc, il joue le rôle de fin dans l'ordre de l'être. Il est ce qu'il y a d'ultime, au-delà de quoi je ne peux pas aller. Ceci est saisi, encore une fois, à l'intérieur même de l'induction. Faisons rien d'autre que d'expliciter un peu ce que cette induction, dans toute sa puissance, dans toute sa force, ayant découvert ce qu'est l'être en acte, nous réfléchissons pour comprendre que cet être en acte est au-delà de toute détermination, au-delà de tout exercice, et au-delà de la vie même de l'intelligence. Puisqu'il est ce qui polarise, ce qui termine la vie de l'intelligence. Et ce qui la mesure. L'acte est donc, je crois qu'on ne peut pas dire autre chose, c'est là où on voit la pauvreté de notre langage. L'acte est donc ce qu'il y a d'ultime dans l'ordre de l'être. Il est fin. Nous verrons mieux ensuite, hein. Je précise ici. Une fois qu'on a précisé cela, je crois qu'on doit tout de suite reprendre cette perspective très très belle qui nous aide à mieux comprendre encore comment l'acte est terme et fin, c'est de comparer l'acte à l'être en puissance. Comprendre ce que Aristote nous dit, parce que là nous n'avons pas grand chose à ajouter, et je crois que nous avons simplement à comprendre c'est déjà bien,
à comprendre comment l'acte est antérieur à l'être en puissance. Vous voyez, c'est une manière pour nous d'expliciter que l'acte est ultime. C'est-à-dire qu'il est fin. Notre langage est un langage qui implique la comparaison. Puisque notre langage n'est pas métaphysique. Alors, notre langage est un langage qui implique toujours le point de vue de la comparaison. Notre langage n'est pas au niveau des principes. Il n'est pas au niveau de ce qu'il y a quelque chose d'ultime. Et c'est pour ça que quand nous voulons expliciter comment l'être est à, comment l'acte est fin de ce qui est, que c'est quelque chose d'ultime dans l'ordre de l'être, nous sommes obligés de revenir à la comparaison de l'acte et de la puissance. Mais en comprenant bien que l'acte ne se définit pas par la puissance. C'est pour ça que nous avons d'abord regardé l'acte en lui-même, au-delà de la forme, au-delà de l'exercice, au-delà de la vie de l'esprit. Et les trois dépassements, je crois que ce sont les trois principaux qu'il faut bien voir, toujours. Parce que c'est très vrai que instinctivement nous ramenons l'acte à la vie de l'esprit, nous ramenons l'acte entelekeia, nous ramenons l'acte à l'exercice, nous ramenons l'acte à la forme. Instinctivement, on fait ça. Parce que c'est plus facile de saisir les fonctions de l'acte que de saisir ce que c'est que l'acte. Alors, une fois qu'on a saisi, autant qu'on le peut, qu'on a touché un peu ce que c'était que l'acte par rapport à l'être, ce qui est d'ultime, pour mieux le saisir, nous comparons. Et nous voyons que l'acte est antérieur à l'être en puissance. Alors là, j'irai assez vite, puisque vous avez tous regardé ça attentivement dans le livre Theta d'Aristote, n'est-ce pas ? Nous l'avons vu au séminaire, du moins ceux qui sont au séminaire. Donc on peut aller assez vite là-dessus. Puis c'est une comparaison. C'est beaucoup plus facile de saisir cela. Mais c'est toujours intéressant de voir comment l'acte est antérieur à la puissance. Parce que là, on a une comparaison. Mais l'être en puissance, il est très en connaturalité avec nous. Très en connaturalité. Nous comprenons tout de suite l'être en puissance. Pas au niveau métaphysique, mais au niveau, je dirais, de notre conditionnement. Nous comprenons très bien l'être en puissance. L'être en acte, c'est un effort. Nous ne sommes pas en connaturalité avec l'être en acte. Même pas notre intelligence. Puisque notre intelligence implique un devenir. Faisons un effort pour toucher l'être en acte, pour toucher l'acte. Et à ce moment-là, notre intelligence s'actue d'une manière ultime dans sa perception intellectuelle, dans sa saisie intellectuelle. Et une fois que nous faisons ça, nous pouvons revenir et comparer. Et voir que l'acte est antérieur à la puissance. Qu'est-ce que ça veut dire quand nous disons ça? Parce que c'est ça qui est intéressant à voir. Qu'est-ce que ça veut dire quand nous disons que l'acte est antérieur à la puissance? Nous voulons dire que la puissance comme telle, l'être en puissance, ne peut pas exister sans l'acte. Ne peut pas être compris sans l'acte. Et donc, l'être en puissance est toujours quelque chose de second. L'être en puissance est relatif à. Oui. C'est important parce que c'est peut-être là où nous commençons à mieux comprendre comment nous pourrons, au terme, expliciter le principe de finalité au niveau métaphysique. C'est à partir de là où nous pouvons saisir comment tout ce qui est en puissance dépend de l'être en acte. Et c'est ça qu'on veut dire quand on dit que l'acte est antérieur. Antérieur selon l'intelligibilité. Antérieur selon l'être, tout simplement. Selon l'ousia, comme dira Aristote. Selon la nature.
Donc les deux grandes antériorités, antérieures selon l'intelligibilité, en ce sens que ce qui est en puissance est toujours ordonné à quelque chose d'autre. Il est vert. Et donc il n'est pas entièrement intelligible. Il est dépendant. Et s'il est dépendant et tourné vert, il ne porte pas en lui-même son intelligibilité propre. Son intelligibilité propre lui vient d'un autre, qui est l'acte. Alors vous comprenez que ceci présuppose, hein, n'oubliez pas, tout ça présuppose l'induction. C'est à partir de l'induction seulement que je comprends qu'en effet, ayant découvert l'acte, j'ai vu des états d'imperfection dépendant de l'état de perfection. Et revenant dans la lumière même de l'acte sur ces états d'imperfection par rapport à ces états de perfection, je peux dire que ce qui est en puissance est en effet dépendant dans son intelligibilité de ce qui est en acte. Je prends l'exemple pour que vous compreniez. Dans l'induction est émis la distinction entre l'état d'imperfection de celui qui dort et de celui qui est éveillé. C'est toujours à partir de là qu'il faut revenir. Parce que ça, nous en avons l'expérience. Bon, celui qui dort, toute son intelligibilité lui vient de celui qui est éveillé, de son état d'être éveillé. Si vous étiez toujours dormant, vous n'auriez aucune intelligibilité par rapport à vous-même. C'est bien évident. Mais même Freud, bien obligé de penser le rêve à partir de ses états d'éveil. Il n'a pas fait sa théorie, il n'a pas fait sa thérapeutique, il n'a pas écrit ses livres quand il dormait. C'était la question qu'il aurait fallu lui poser. Comment se fait-il que vous avez écrit des livres? Comment se fait-il quand vous allez voir le malade? Est-ce que vous y allez dormant? Si vous n'y allez pas dormant, ça prouve que votre état d'être éveillé est quand même supérieur à l'état de celui qui dort. Parce que pour lui, il aurait la tendance de dire que quand on dort, vous savez bien, l'inconscient passe devant, n'est-ce pas, d'une certaine manière. Parce que le devoir est quelque chose qui limite terriblement notre activité et notre spontanéité. Dès que vous réfléchissez un tout petit peu sur votre vie, vous voyez qu'en effet, vous ne comprenez votre état d'être dormant que par votre état d'être éveillé. Normalement, nous faisons de la philosophie et de la métaphysique quand nous sommes éveillés. Si vous dormez pendant le cours, tout d'un coup vous vous réveillez, où est-ce qu'on en est? Oui, l'être dormant. L'être dormant n'a d'intelligibilité que parce qu'il est éveillé. Je crois que c'est une évidence. C'est une évidence, on va dire, de bon sens. Non, c'est une évidence de vie, tout simplement. Celui qui est capable de voir et celui qui voit. Est-ce que je peux parler de la capacité de voir avant la vision? Non. Quelqu'un qui n'a jamais vu ne peut pas parler de sa capacité de voir. Donc, la capacité de voir, qui est l'être en puissance, n'a d'intelligibilité que par rapport à l'acte. La vision. Je crois que ça, c'est assez facile à comprendre. Dès que vous revenez au point de départ de l'induction, il faut revenir au point de départ de l'induction et comprendre qu'en effet, l'être en puissance n'est intelligible que par rapport à l'être en acte. Toute l'intelligibilité de l'être en puissance provient de l'acte. Toute l'intelligibilité. Alors vous allez me dire, alors pourquoi? Alors l'être en acte, c'est donc du non-être. Hein? Et ça, c'est la grande tentation. Puisque je dis, toute l'intelligibilité de l'être en puissance vient de l'être en acte, donc il est non-être. Eh bien non, l'être en puissance n'est pas du non-être. Son intelligibilité dépend de l'être en acte, mais il possède en lui-même une intelligibilité imparfaite. Il n'est pas non-être. Alors est-ce que vous pourriez dire que toute l'intelligibilité du non-être vient de l'être? En acte. Ce serait intéressant de se poser la question. Est-ce que toute l'intelligibilité du non-être, le non-être a-t-il une intelligibilité? C'est là la question. Est-ce que le non-être est intelligible? Le non-être, il est le fruit de votre intelligence. Votre intelligence capable de nier. Si votre intelligence ne pouvait pas nier, il n'y aurait pas l'affirmation du non-être. C'est votre intelligence qui nie. Et quand l'intelligence nie jusqu'au bout, elle dit le non-être. C'est la négation absolue du non-être. C'est la négation absolue. Vous ne pouvez pas aller beaucoup plus loin dans l'ordre de la négation. Vous pouvez nier la vie, vous pouvez nier l'intelligence, vous pouvez nier l'esprit, vous pouvez nier les qualités, mais quand vous niez l'être, il n'y a plus rien. Donc le non-être n'a aucune intelligibilité. Aucune intelligibilité. Vous fabriquez le non-être pour manifester ce que c'est que l'être. Tandis que je ne dis pas du tout que je fabrique l'être en puissance. L'être en puissance n'est pas un être de raison. L'être en puissance n'est pas quelque chose que je fabrique pour mettre en pleine lumière l'être en acte. Pas du tout. J'ai constaté dans la réalité deux expériences. Celui qui dort et celui qui est éveillé. Celui qui dort n'est pas du non-être. Il existe dormant. Il existe dans cet état d'imperfection. Il existe en attendant d'être éveillé. Vous pouvez dire ça. Vous pouvez dire tout votre sommeil, c'est une attente d'être éveillé. Il ne faut pas être trop conscient de ça. Parce qu'alors à ce moment-là, le sommeil disparaît complètement. Si vous voulez dire que vous êtes une attente d'être réveillé, ça disparaît complètement. Vous ne pouvez plus. Il y a quelque chose de particulier. Celui qui est un être dormant, il implique une certaine intelligibilité, mais imparfaite, qui ne peut s'expliciter que par l'être en acte, que lorsqu'il est éveillé. Mais il n'est pas du non-être. Toute son intelligibilité lui vient bien de l'être en acte, parce que son intelligibilité propre est dans un état d'imperfection. Alors, parce qu'elle est dans un état d'imperfection, elle est une attente vers l'état de perfection. L'être en puissance est dans un état d'imperfection à l'égard de l'être en acte. Donc, au point de vue de l'intelligibilité, il est entièrement dépendant. Il est entièrement tourné vers, au point de vue de l'intelligibilité, ce qui permet de comprendre que l'acte est vraiment principe, relativement à l'être en puissance. L'acte est premier, donc il est principe, dans l'ordre de l'intelligibilité. Or, c'est vraiment ça la définition même du principe, c'est d'être premier dans l'ordre de l'intelligibilité. Et de faire que ce qui vient après est totalement dépendant de lui. Parce que si ce qui vient après n'est pas totalement dépendant de lui, vous n'avez pas affaire à un principe. Donc, si vous comprenez que l'intelligibilité de l'être en puissance dépend totalement de l'intelligibilité de ce qui est en acte, vous comprenez à ce moment-là que l'acte est principe d'intelligibilité de tout ce qui est en puissance ordonné vers l'acte. Voyez, tandis que vous ne pouvez pas dire que le non-être a de l'intelligibilité. C'est ça qu'il faut saisir. C'est assez subtil, mais c'est important parce qu'il faut bien comprendre la différence qui existe entre être en puissance et le non-être. On est tenté de glisser. Vous voyez, c'est plus facile d'une certaine manière de dire que c'est le non-être. C'est plus facile. Parce que là, vous êtes en face d'un être intermédiaire entre le non-être et l'être en acte. Vous êtes en face de quelque chose qui est un état d'imperfection. Et tout état d'imperfection est toujours quelque chose d'instable. L'être en puissance est instable. Le non-être, je ne dis pas qu'il est stable, mais le non-être, il a au moins c'est ce privilège de n'exister que dans ma pensée. Il existe dans la mesure même où je pense le non-être, c'est-à-dire où je vais jusqu'au bout de la négation. Second moment, antériorité de l'acte au point de vue de l'être. J'ai pris l'intelligibilité parce que l'intelligibilité, d'une certaine manière, est première. Au niveau de l'être, il faut comprendre que l'acte est premier à l'être en puissance. Alors, vous pouvez reprendre les mêmes raisonnements, parce que les deux se tiennent, par rapport à l'induction que nous avons vue. Mais d'une autre manière, quand vous comprenez ce qui est capable de voir et celui qui voit, ce n'est pas seulement dans l'ordre de l'intelligibilité, ce n'est pas seulement dans l'ordre de la connaissance, c'est quelque chose de plus. Celui qui voit, celui-là, d'une certaine manière, il n'attend plus rien d'autre, si ce n'est une vision plus nette. Si sa vision n'est pas nette. Donc il attend, dans l'ordre de la vision, d'aller le plus loin possible dans l'ordre de l'acte. Parce que celui qui n'a pas de vision nette, il est myope. Ça prouve que sa vision n'est pas parfaite. Donc il est en acte, mais il pourrait aller plus loin dans l'ordre de l'acte. Donc c'est dans la même ligne que l'acte. Mais c'est toujours la vision qui montre comment on est en acte. Celui qui est capable de voir, je le dis à partir de l'acte, et au point de vue de son être, il demeure en puissance. C'est-à-dire, au point de vue de son être, il demeure dans l'ordre de l'imperfection. Et parce qu'au point de vue de l'être, il demeure dans l'ordre de l'imperfection, il est dépendant de ce qui est en acte. Alors ça, cette dépendance, elle est très subtile. Vous allez me dire, mais pas du tout. La vision ne dépend pas du tout de ce qui est en acte. Elle veut dire, la vision ne dépend pas du tout de ce qui est capable de voir, donc qui est en puissance. Comment comprendre que ma vision actuelle, je vous vois, que cette vision qui est l'acte, fait que ce qui est capable de voir dépend de cet acte. Que c'est ça, pour voir la priorité de l'acte par rapport à ce qui est en puissance au niveau propre de l'être. Au niveau de l'intelligibilité, nous l'avons vu, c'est plus facile. Je comprends plus facilement qu'en effet, parler de l'être en puissance, il faut d'abord comprendre l'être en acte. Si je veux comprendre que dans le gland est contenu tout le chêne, il faut regarder le chêne. Si je veux regarder que dans l'embryon est contenu tout l'homme, il faut regarder l'homme et voir le développement de l'embryon à l'homme. Et je dis que l'embryon est en puissance par rapport à l'homme. Et donc l'intelligibilité de l'embryon ne se fera que par rapport à l'homme. Et c'est vrai. L'intelligibilité de l'embryon est une intelligibilité qui est très imparfaite. Et elle ne sera parfaite que quand je regarderai le développement parfait, justement, de l'embryon dans l'homme. Bon. Au point de vue de l'intelligibilité, je comprends assez facilement. Au point de vue de l'être, c'est plus difficile. Comment comprendre que l'embryon dépend de l'être en acte? Puisque l'être en acte n'est pas encore en acte. C'est ce que vous direz tout de suite. L'être en acte n'est pas encore en acte. Comment comprendre que ma capacité de vision dépend de ma vision? Puisque je pars de ma capacité de vision. Alors vous voyez, c'est là l'équivoque. Il y a un petit sophisme là, qui nous arrête, et qui est très intéressant parce qu'on va le dépister après. On dira en effet, quand il s'agit du devenir, l'être en puissance est antérieur à l'acte. Quand il s'agit du devenir, quand il s'agit d'un être embryonnaire, l'être en acte dépend de l'embryon. Quand il s'agit d'un devenir, toujours l'être en puissance est antérieur à l'être en acte. Or, instinctivement, nous repensons le devenir et nous disons, parfait, nous disons que c'est ce qui est en acte qui, dans l'ordre du devenir, qui dépend de l'être en puissance. C'est absolument nécessaire. Et nous avons beaucoup de peine à comprendre comment l'être en puissance, au-delà du devenir, indépendamment du devenir, dans l'ordre de l'être, dépend de l'être en acte. Alors à ce moment-là, il faut commencer par l'être qui est en acte, puisqu'il ne s'agit plus du devenir. Il faut donc regarder comment la vision implique la capacité de voir et comment l'être parfait implique toutes les virtualités d'un être en puissance. Et alors à ce moment-là, vous comprenez comment l'être en acte est vraiment antérieur à l'être en puissance et que l'être en puissance dépend de lui parce qu'il est contenu dans l'être en puissance est contenu dans l'être en acte. Mais il ne faut pas regarder le devenir. Si vous regardez le devenir, vous n'y comprenez plus rien du tout. Parce que justement, vous êtes au niveau de l'être, et au niveau de l'être, vous devez comprendre que ce qui est en acte est ultime, et que ce qui est en puissance dépend de lui. Réfléchissez sur ça. Et si vous avez des difficultés, vous les poserez en question, ce qui nous permettra de préciser encore un peu plus cette question de l'antériorité de l'acte sur la puissance.